Vous avez de la chance, c'est jour de visite aujourd'hui. Monsieur Lebrun, que voici, vous accompagnera.
L'Arabie Saoudite et le prix du pétrole.
Deux, trois, quatre, cinq, six, sept.
J'augmente le baril de 7%.
7%, Excellence ?
Oh ben, après l'augmentation du mois dernier...
Dans le sens ça, je ne suis pas ici pour discuter de ces petits détails sordides.
Ça s'appelle sordide hors de prix.
Avec le pétrole, s'il est une chose dont on est sûr, c'est que l'imprévisible peut toujours se produire. La hausse brutale... On en entendait l'évocation, on est au milieu des années 70, la baisse inouïe que nous vivons actuellement. Dans le ciel, il y a maintenant trop d'astres pour qu'une gouvernance commune du pétrole puisse prétendre à les aligner. Cependant, toutes les combinaisons doivent tenir compte de l'Arabie Saoudite. La création de l'OPEP, qui a triomphé en 1973, lui doit beaucoup. Aujourd'hui, à l'inverse, elle peut jouer la poursuite de la baisse avec des risques moindres que les autres pays arabes. Elle a les poches si profondes. Sa politique, d'ailleurs, est désormais orientée vers le moyen terme, le maintien de ses parts du marché dans l'Asie en développement, la diversification de ses productions. Elle se tourne vers le gaz de schiste, le nucléaire, le solaire. Mais il ne fait pas si beau que cela sur le royaume. Son wahhabisme farouche et son opposition frontale au chiisme le mettent dans des contradictions grandissantes. Le président Obama est venu d'Ardar saluer le nouveau souverain qu'une fratrie à bout de souffle vient de donner au pays. Mais le vieux pacte spécial de 1945, pétrole contre protection militaire, est pas mal desserré.
La marche de l'histoire, France Inter... Jean Lebrun.
Avec Francis Perrin, bonjour.
Bonjour.
Alors vous êtes chairman de, c'est formidable, stratégie et politique énergétique. Enfin, on connaît très bien le bulletin pétrole et gaz arabe que vous animez depuis des lustres pour que vous soyez resté si longtemps au poste d'observation où vous êtes, Francis Perrin. C'est qu'il y a un monde en perpétuel renouvellement qui vous passionne.
Oui, tout à fait, les deux choses sont vraies, cela me passionne et c'est en perpétuel renouvellement, et sans doute cela me passionne parce que c'est en perpétuel renouvellement. Le monde du pétrole, nous allons en parler, mais dans votre introduction, vous avez rappelé les hausses, les baisses. Et puis, c'est un monde très complexe, avec de gros enjeux, où se mêlent la géologie, la technique, l'économie, l'industrie, le financier, le politique, le stratégique. Et donc, c'est très riche et très complexe.
On va pas remonter à l'an zéro, qui est fixé traditionnellement en 1859 aux États-Unis, en Pennsylvanie. L'importance de l'Arabie Saoudite a été repérée un peu avant la Deuxième Guerre mondiale.
Oui, c'est dans les années 1930, en fait, que le Moyen-Orient, et notamment l'Arabie Saoudite, et on découvre son potentiel pétrolier. On était loin d'ailleurs à l'époque de savoir à quel point il était important. Mais il y a des découvertes qui sont réalisées par des compagnies américaines, notamment une société qui, depuis, a changé plusieurs fois de nom, mais qui s'appelait à l'époque la Standard Oil of California. Socal, qui aujourd'hui s'appelle Chevron, après des fusions dans les décennies qui ont suivi. Et cette compagnie va donc commencer à exploiter le pétrole saoudien. Et puis plus tard, d'autres compagnies américaines, Texaco, qui a disparu aujourd'hui pour avoir été racheté justement par Chevron. Gulf, qui a disparu pour avoir été racheté par Chevron. Exxon, qui plus tard a racheté Mobil pour devenir ExxonMobil. Bon, c'est une histoire évidemment assez compliquée. Mais voilà, plus tard, il y a quatre grandes sociétés américaines qui se sont associées au sein de l'Aramco pour exploiter les richesses prodigieuses de l'Arabie Saoudite. Et beaucoup plus tard dans cette histoire, l'Aramco sera nationalisée.
On n'en est pas encore là.
Saudi Aramco.
On n'en est pas encore là. L'Aramco a dû prévenir le président Roosevelt qu'il fallait anticiper. Et avant même que la guerre ne soit terminée, le président américain convie le roi, j'allais dire le jeune roi, non, le vieux roi du jeune royaume
absolument
d'Arabie Saoudite, un rendez-vous en février 1945.
« One of the most colorful visits to the presidential cruiser was that of the ruler of Saudi Arabia, King Ibn Saud.
Alors, le rendez-vous a lieu sur le croiseur du président américain. On va voir que le roi déploie ses trésors devant le président.
...were installed on the American destroyer, aboard which lived the king and his entourage. All the traditional splendor of the mysterious East is manifested in the costumes.
Des écouteurs, des gardes, 8 boutons. Il y a aussi des otages au cas où des tribus se rebelleraient.
The 65-year-old monarch leaves his country for the first time to attend this meeting.
Il n'est pas tout jeune, le roi Saoud, et il marche avec difficulté parce qu'il est recru de blessures après toutes ses campagnes à chameau. Quant au président américain, il est sur son fauteuil roulant. Il donne d'ailleurs au roi Saoud un fauteuil roulant de rechange, un peu trop petit pour la stature du roi saoudien. Comment ça va se passer les premières années avec l'Aramco? On dit que l'Aramco n'a pas beaucoup de considération pour les ouvriers saoudiens. Je ne sais pas si elle en a pour la famille royale.
Il est clair que à cette époque, il y a beaucoup à dire sur l'attitude des compagnies pétrolières dans des pays producteurs en développement, l'Arabie Saoudite, d'autres pays arabes, d'autres pays en dehors du monde arabe. Et quant aux conditions de travail, quant aux salaires, quant aux relations contractuelles entre ces compagnies étrangères et les pays hôtes. À l'époque, on était dans une logique de concession qui parfois couvrait des superficies énormes et qui était conclue pour des durées de temps absolument considérables, parfois près d'un siècle, avec pour le pays hôte des revenus en termes de fiscalité qui étaient extrêmement mince au regard de la valeur du pétrole.
Enfin, tout de même, l'Aramco va faire assez vite 50-50 avec le royaume, enfin du moins avec la famille royale. Comme d'ailleurs au Venezuela, les compagnies sont contraintes de faire 50-50 à la même époque. C'est d'ailleurs un Vénézuélien et un Saoudien qui sont à l'initiative de l'OPEP, qui naît très discrètement en 1960 à Bagdad.
Tout à fait. L'OPEP est créé au départ par 5 pays. L'OPEP, donc l'Organisation des pays exportateurs de pétrole, compte aujourd'hui 12 États membres. Mais il y en a 5 qui sont toujours là, qui sont les fondateurs, dont effectivement les deux géants que sont l'Arabie Saoudite et le Venezuela. Et le rôle du Venezuela a été à l'époque tout à fait considérable. Il y avait une très forte conscience parmi certains responsables pétroliers au Venezuela des atouts liés au pétrole, des enjeux liés au pétrole et aussi des risques et des dangers liés au pétrole. Du côté vénézuélien, il y a cette phrase fameuse « le pétrole est l'excrément du diable » prononcée justement par l'un de ceux qui est l'un des fondateurs de l'OPEP.
Pérez Alfonso, qui ensuite, au moment de sa retraite, va installer ostensiblement une voiture qu'il va laisser rouiller au fond de son jardin en disant attention, quand il y a de la rente, ça donne ce genre de situation.
Personnage original, curieux, extrêmement intelligent, très bon connaisseur des questions pétrolières. À l'époque, en 1960, donc quand l'OPEP est créé, il s'agit pour ces pays producteurs, donc 12 aujourd'hui, de faire en sorte que l'Union fasse la force. Face aux cartels des grandes compagnies pétrolières, les fameuses 7 sœurs, comme on les a appelées pendant plusieurs dizaines d'années jusqu'au début des années 70, qui dominaient de loin le marché pétrolier mondial, justement parce qu'elles s'étaient organisées au moins pendant une partie du temps en cartel, les pays producteurs se sont dit, on va s'unir pour défendre nos intérêts. Défendre nos intérêts, ça veut dire défendre nos revenus pétroliers, avoir une plus grande part des revenus pétroliers, revoir la fiscalité à la hausse, négocier des contrats à peu près comparables avec les compagnies pétrolières, donc une revendication de souveraineté sur les ressources naturelles dont ces pays étaient son propriétaire.
Et régulation des réserves, c'est l'argument qui est souvent mis en avant. Alors, à l'initiative de l'OPEP, le cher Tariki, du côté saoudien, et voici son successeur, le fameux cher Yamani.
Je pense que nous ne voulons punir personne. Nous avons produit beaucoup plus que ne l'exige le budget du pays. Et la chose n'est pas logique. Si je considère les intérêts saoudiens, ben nous sommes en train d'épuiser nos ressources trop vite. Disons que dans une génération, il n'y aura plus aucun revenu possible. Nous avons donc l'habitude du sacrifice en Arabie Saoudite comme dans les autres pays arabes, contre rien en retour. Nous voulons coopérer avec l'Ouest, avec vous, avec le Japon et les États-Unis. Ce que nous avons décidé de faire consiste à ne pas vouloir sacrifier nos ressources. Réduire donc le sacrifice graduellement jusqu'à ce que nous atteignions un niveau de production qui correspondrait à nos besoins financiers nationaux.
Antenne 273, il faut savoir que deux ans auparavant, le président américain Nixon avait laissé entendre qu'on avait, aux États-Unis en tout cas, atteint le pic. Alors, les Saoudiens, eh ben, ils utilisent cette argumentation. On n'a pas tant de réserves que ça. On sait d'ailleurs si... Quel est le montant des réserves à cette époque-là du côté saoudien ?
On le sous-estimait à l'époque, puisque ces propos donc, datent, vous venez de le rappeler, de 1973. Nous sommes en 2015. L'Arabie saoudite a devant elle un horizon de réserve que personne ne peut chiffrer précisément, mais qui en tout cas représente des dizaines et des dizaines d'années de production. Donc, plus d'une génération après ces propos du cheikh Yamani, qui est un homme extrêmement rusé. Donc il faut évidemment, je dirais, décrypter ce qu'il dit à l'usage de l'auditoire auquel il s'adresse. L'Arabie saoudite est le deuxième ou le troisième producteur mondial de pétrole. Ça dépend exactement ce que l'on appelle pétrole. Elle a des réserves considérables.
Oui, mais peut-être les Américains étaient-ils rusés, n'avaient-ils pas tout dit sur les réserves saoudiennes?
Je crois que...
À Riyad.
Alors, bien sûr... Mais il faut tenir compte aussi de deux choses essentielles quand on parle de réserves. Il y a la connaissance géologique de certains gisements. Ensuite, il y a des découvertes que l'on fait. Donc à un moment donné, on ne sait pas ce qu'on va découvrir plus tard. Et puis, il y a l'évolution des techniques. Aujourd'hui, on peut développer des gisements, des champs pétroliers ou gaziers dans des conditions techniques qu'on n'aurait pas pu envisager il y a plusieurs années et quelques décennies.
Alors revenons très en arrière,
et 1973. Des prix, évidemment. Plus le prix est élevé, plus ça rentabilise le développement de certains gisements.
En 1973, justement, la décision est prise par les pays arabes, aiguillonnés par la Libye. Kadhafi vient d'arriver au pouvoir, d'augmenter les prix. Le prétexte, c'est la guerre du Kippour, qu'Israël a failli perdre. Et s'ensuit une récession violente pour les pays d'économie occidentale. À la BBC, il y a des pasteurs anglicans qui se demandent si on ne devrait pas prendre les bains en famille pour économiser le chauffe-eau. Donc les réunions de l'OPEP qui se tiennent à Vienne sont guettées par tous, ce qui donne des idées à certains. Nous sommes deux ans ici, après la guerre du Kippour, en décembre 1975.
Inter soir 3e, François Foucard.
On se disait, mais enfin, où vont-ils s'arrêter? Jusqu'où ira-t-on dans les prises d'otages? Et certains imaginaient des hypothèses fantastiques telles qu'enlèvement de ministres, voire d'un chef d'État. Eh bien, à Vienne, nous y sommes presque. Un commando, à la fin de la matinée, s'introduit très facilement au siège de l'OPEP, Organisation des pays producteurs de pétrole. Les terroristes parviennent jusqu'à la salle des séances où siègent les ministres du pétrole. Dans l'échange de coups de feu, deux policiers autrichiens ont été tués et un terroriste grièvement blessé. Il s'agit du chef du commando, et aux dernières nouvelles, il s'appellerait Carlos, mais on ne sait pas s'il s'agit bien du fameux Carlos. Les terroristes se présentent comme les militants d'un mouvement jusqu'ici inconnu, le bras de la révolution arabe. Ils ont rédigé un communiqué en français. Ils exigent que ce communiqué soit lu toutes les deux heures à la radio autrichienne. Écoutez.
Le bras de la révolution arabe, tout en accomplissant cette opération en vue d'avertir le régime arabe réactionnaire et capitulateur.
Je vous rappelle qu'au total, les terroristes détiennent 30 personnes, dont 11 ministres, le saoudien Yamani, l'iranien Amousgar et l'algérien Abdeslam, qui est d'ailleurs utilisé comme négociateur par les terroristes.
Les otages ont été transférés par avion en Algérie et en Libye, et il est rusé, le cher Yamani. Il ne va pas être exécuté. Et à Bach, le FPLP palestinien va reprocher à Carlos de ne pas l'avoir exécuté.
Je crois que, à travers ce qui vient d'être rappelé, cela montre bien, effectivement, la prise de conscience de l'importance de l'OPEP. Parce que pour des terroristes, on ne prend pas n'importe qui en otage. On prend des personnes qui sont considérées comme importantes pour différentes raisons politiques, économiques, médiatiques ou tout cela à la fois. Donc ça se passe en 1975, vous l'avez rappelé. J'imagine que 5 ans auparavant, par exemple, probablement Carlos et son groupe n'auraient certainement pas choisi l'OPEP comme cible, parce que quasiment personne, en dehors des milieux pétroliers, ne parlait de l'OPEP et ne connaissait l'OPEP.
Mais 10 ans après, l'OPEP a été menacée de l'extérieur, mais il s'avère assez vite qu'elle est divisée de l'intérieur.
Alors, 10 ans après, donc on est 1985-86, après les deux chocs pétroliers des années 70, 73-74, 79-80 liés à la révolution islamique en Iran, nous avons ce qu'il est convenu d'appeler le contre-choc pétrolier. Les prix chutent. Ils étaient au début des années 1980 à environ $40 par baril, en gros, et ils tombent en 86 à un point bas de un peu moins de $10 par baril. Juste en dessous de $10 par baril. Donc c'est absolument considérable. Et là, cela vient du fait que il y a plusieurs raisons, mais il y a aussi des raisons internes, vous avez raison. Division entre, d'un côté, l'Arabie Saoudite et ses proches alliés, Émirats Arabes Unis et Koweït, qui disent il faut faire baisser les prix du pétrole, ils sont trop élevés. Les autres pays de l'OPEP, la majorité, disent non, pas question, on veut garder des prix élevés parce que ça nous fait des revenus importants. Résultat, pas d'accord, l'Arabie Saoudite et ses alliés arabes du Golfe ouvrent les vannes, mettent beaucoup de pétrole sur le marché, les prix s'effondrent et donc tombent à $10 ou juste un peu moins en 86.
Et le monde occidental est reconnaissant à l'Arabie Saoudite.
Sans aucun doute.
Ça annonce d'une certaine manière peut-être la situation actuelle, sauf que dans le domaine du pétrole, tout est imprévisible. C'est pas parce que les prix du pétrole ont provoqué un rebond de la croissance au moment du contre-choc au milieu des années 80, que la même situation va se retrouver aujourd'hui.
Et puis il y a une différence notable entre 86 et aujourd'hui, et 2014-2015, c'est qu'en 2014, l'Arabie Saoudite n'a pas ouvert les vannes. Ce n'est pas l'Arabie Saoudite qui a fait chuter les prix du pétrole. Elle a décidé, voyant que les prix chutaient, de ne pas réduire sa production et donc de ne pas s'opposer à cette baisse. Mais cette baisse a été provoquée par deux autres pays, les États-Unis et le Canada, car ce sont eux qui tirent à la hausse la production pétrolière mondiale grâce au pétrole non conventionnel depuis quelques années.
Ça, c'est le sommaire de la deuxième partie avec vous, Francis Perrin.
C'est pétanchat, 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 un pacha plein d'argent, si puissant, que dans son, que dans son, que dans son, son harem, toutes les femmes lui disaient cha-cha-cha, comme on t'aime, mais malgré ses mimi, ses mimi, ses milliards, le pacha, cha-cha-cha, avait bien le cafard, des pépés, des pépés, des pétroles, il était saturé, car son rêve, c'était de voir pousser le gazon devant son papa, son palais en toute saison. Mais chaque fois qu'il creux-creux, qu'il creusait des trous-trous pour trou-trou, pour trou-trou, laïtou, pour trouver un fifi, filet d'eau, du pépé, du pétrole jaillissait aussitôt. Et les sous, les sous-sous, les sourciers, les sorciers voulaient tous des mimis sillonnés. Et le pa, le papa, le pacha languissait, car son rêve, c'était de voir pousser le gazon devant son papa, son palais en toute saison.
La marche de l'histoire, Jean Lebrun sur France Inter.
Et vous voyez, Francis Perrin, Jacques Sigal, notre réalisateur, a extrait du puits de disque de la maison de Radio France, ce chef-d'œuvre de Jean Constantin. Notre thème aujourd'hui, c'est l'Arabie Saoudite et la construction du prix du pétrole. Je trouve qu'il y a quelques ressemblances entre cette chanson de Jean Constantin et le roi Fahd.
J'imagine
pas simplement
que
cela, hédoniste.
Cela a pu effectivement donner à ce chanteur cette idée. Et cela montre que les réserves musicales de France Inter sont encore plus inépuisables que les réserves de pétrole.
Comment se répartit la rente pétrolière entre la famille royale? Ils sont quelques milliers, 7000
et on ne connaît pas exactement, mais c'est de l'ordre de milliers de personnes, effectivement. Ouais. L'avantage de l'Arabie Saoudite, c'est que la rente pétrolière est tellement énorme. Alors là, évidemment, maintenant, actuellement, elle baisse beaucoup, mais elle est tellement considérable en régime de croisière, si je puis dire, que cela permet à la fois d'entretenir à grands frais une famille royale assez importante, vous venez de le rappeler, et en même temps de satisfaire aux besoins fondamentaux du pays. C'est un pays aussi qui a une faible population. Ce n'est pas l'Iran, ce n'est pas le Venezuela, il faut le rappeler.
On sait combien il y a d'habitants vraiment en Arabie Saoudite ?
Il n'y a pas un recensement de l'INSEE tous les 5 ans, très clairement. Mais voilà, vu l'importance de la rente pétrolière, cela permet au gouvernement, alors sauf shoot brutal des prix comme actuellement, de veiller au bien-être général et en même temps de permettre à ceux qui le dirigent et à ceux qui gravitent autour de ceux qui les dirigent, parce qu'il faut évidemment, voilà, c'est un aspect de compromis.
Il y a le bien-être général et les intérêts particuliers.
Voilà. Et tout ceci peut être réconcilié, entre guillemets, avec une rente pétrolière très importante. Si elle ne l'était pas, ça poserait des problèmes.
L'OPEP existe toujours, vous nous l'avez dit, 12 membres, encore qu'il y a des membres qui ne produisent plus grand-chose. L'Indonésie est encore membre ?
L'Indonésie, non. Elle s'est retirée parce qu'elle est devenue importatrice de pétrole et que l'OPEP, c'est l'organisation des pays exportateurs de pétrole.
Alors, l'OPEP, ça représente moins de la moitié depuis les années 80 déjà,
oui,
de la production mondiale.
Tout à fait, on l'oublie souvent et l'OPEP ne manque pas une occasion de nous le rappeler. Lorsque certains se tournent vers l'OPEP pour dire il faudrait que vous réduisiez votre production pour faire remonter les prix, d'autres pays producteurs, l'OPEP leur dit mais n'oubliez pas, nous ne représentons pas la majorité de la production mondiale. Donc pourquoi est-ce que les pays non-OPEP ne feraient pas aussi un effort ? Aujourd'hui, l'OPEP, en 2014, début 2015, c'est entre un tiers et 40% de la production pétrolière mondiale. Ça dépend si on compte uniquement le pétrole brut ou si on ajoute aussi d'autres liquides extraits du gaz naturel. Mais voilà, c'est donc, ça veut dire que les pays non-OPEP, c'est au moins 60% aujourd'hui de la production pétrolière mondiale.
Alors, première caractéristique de l'époque où nous sommes, la diversification des pays producteurs. Et puis, deuxième caractéristique depuis quelques années, la diversification avec le pétrole et le gaz de schiste. Alors, c'est drôle parce que le pétrole a commencé en Pennsylvanie, pas loin des Appalaches, et voilà que la roue de la fortune s'arrête de nouveau, à peu près au même endroit.
C'est le miracle de la fracturation hydraulique qui permet d'exploiter le pétrole et surtout le gaz de schiste. Ce miracle pourrait arriver à Owego, charmante petite bourgade touristique de l'État de New York. Les compagnies gazières peuvent déjà compter sur Greg Zilla, propriétaire du journal local. Il a créé un supplément à leur gloire.
Les compagnies qui sont dans la région soutiennent largement nos associations culturelles, nos pompiers, nos centres de soins, nos ambulances, notre hôpital. Elles investissent dans la communauté. Je n'ai jamais vu ça.
Mais la population est divisée.
Ils viennent voir les gens et leur disent « Le puits, c'est gros comme un sapin de Noël dans votre jardin et vous serez riches. » Ils ne leur donnent aucun détail. Mais quand ils en savent plus, les gens sont inquiets.
William et Brenna ont concédé l'exploitation de leur sous-sol.
En échange de ça, on reçoit des royalties. La fracturation n'a pas d'impact qu'on puisse ressentir sur notre propriété. Ça se passe à plus de 2 km sous le sol.
Juste une parenthèse, c'était un reportage de TF1 2013, avant qu'on revienne à l'Arabie Saoudite. Quand on parle de la construction politique du prix du pétrole, on ne parle jamais des externalités négatives, enfin de l'empreinte écologique. Ça pourrait entrer dans le calcul du prix.
Cela pourrait entrer, mais ce n'est pas le cas très clairement. Dans ce monde dominé par les combustibles fossiles, pétrole, gaz naturel et charbon, évidemment le plus problématique en termes d'environnement, il faut rappeler qu'aujourd'hui, ces trois combustibles fossiles, dont le pétrole est évidemment le plus important, la source d'énergie reine, c'est plus de 80% de la consommation énergétique mondiale, encore aujourd'hui.
Les États-Unis s'autonomisent avec ces nouvelles découvertes qu'ils considèrent comme miraculeuses. L'Arabie Saoudite, bon, voit son lien un peu desserré avec les États-Unis, mais ce qui lui importe, c'est d'élargir son marché vers l'Asie, en compensation. La Chine, le Japon.
Tout à fait.
Grâce
au pétrole non conventionnel, notamment le pétrole de schiste, les États-Unis voient leur production augmenter depuis 2008, année après année. Cette augmentation de la production est l'une des principales causes de la chute des prix à partir de l'été 2014, et nous sommes encore là-dedans à la fin janvier 2015. Cela leur permet de réduire drastiquement leurs importations. En 2005, les importations, c'était 60% de la consommation pétrolière américaine. Cette année, ce sera sans doute un peu plus de 20% seulement. Donc les États-Unis sont en train de progresser à grands pas, à marche forcée, vers une quasi-indépendance énergétique.
Oui, mais l'Arabie Saoudite trouve des compensations. Alors, et puis elle pense aussi à moyen terme. Pourquoi est-ce qu'on ne chercherait pas, nous aussi, du gaz de schiste? Alors, on va en trouver.
Pour l'Arabie Saoudite et sa compagnie pétrolière nationale, Saudi Aramco, le marché asiatique devient, année après année, de plus en plus important. C'est déjà le premier marché devant les États-Unis et d'autres marchés. Et ce marché, évidemment, il a plusieurs avantages en termes de croissance économique, en termes de population, en termes de développement, en termes de soif d'énergie et de pétrole. Les pays asiatiques, évidemment, la Chine, l'Inde et plusieurs autres, vont continuer pendant plusieurs années à avoir une consommation pétrolière orientée à la hausse. Donc pour l'Arabie Saoudite, le fait que les États-Unis consomment, non pas consomment moins de pétrole, mais importent moins de pétrole, y compris de leur pétrole, ce n'est pas dramatique dans la mesure où l'Asie monte constamment en puissance. Mais la question, c'est est-ce que cela pourrait conduire à terme à desserrer le lien stratégique États-Unis-Arabie Saoudite?
Alors tout change, dites-vous, dans le monde du pétrole. Quand même, quand on parle de l'Arabie Saoudite, ce qui ne change pas, c'est que le pouvoir passe d'un fils à un autre, des innombrables mariages du vieux roi Ibn Saoud qu'on entendait au début de l'émission, qui aurait 140 ans aujourd'hui. Alors le roi Abdallah vient d'être enterré dans un grand concert d'éloges, dont certains sont parfois, comment dire, exprimés un ton au-dessus.
C'était un grand leader, souligne la directrice générale du FMI, Christine Lagarde. Il a mis en place un certain nombre de réformes en Arabie Saoudite et était de manière discrète un grand défenseur des femmes. Sa Majesté était déterminée à changer progressivement la situation. Autre réaction, celle de l'ancien président israélien, Shimon Peres. C'est une grande perte pour le Moyen-Orient, une grande perte pour la paix dans la région. C'était un dirigeant expérimenté, un roi sage. La Chine a également salué son rôle pour la paix. Le roi Abdallah était un remarquable chef de file en Arabie Saoudite qui s'est engagé à promouvoir le développement du pays et à protéger la paix et la stabilité au Moyen-Orient.
J'avais avec le roi Abdallah des relations de confiance pour lutter contre le terrorisme.
Alors, tout de même, le prix du pétrole a un rapport avec l'histoire régionale. Je voudrais qu'on finisse, Francis Perrin, là-dessus. Certains pensent que l'Arabie Saoudite est utile dans la lutte contre le terrorisme. Maintenant, les Américains en sont moins convaincus. Ils avaient aussi conclu une alliance en 1945, renouvelée en 2005, avec un pays qui était contre Israël. Le président israélien émérite fait quand même tresser des couronnes.
Monsieur Peres fait certainement référence au fait que le roi Abdallah avait proposé un plan de paix global avec Israël. Plan de paix qui malheureusement n'a pas eu de suite, en échange évidemment de l'évacuation de l'ensemble des territoires arabes occupés par Israël. Mais pour l'Arabie Saoudite, à l'époque, c'était considéré, dont l'hostilité à Israël était bien connue depuis des lustres, c'était considéré comme une avancée tout à fait considérable en termes de politique étrangère à l'époque. Et c'est certainement ce qu'a retenu M. Peres. Alors, bon, bien sûr, le concert de louanges et l'importance de l'Arabie Saoudite, c'est quand même lié à un mot qui s'appelle pétrole, que nous prononçons depuis à peu près une demi-heure, soyons tout à fait clairs. Certes, l'Arabie Saoudite joue un rôle dans la lutte contre le terrorisme. Évidemment, l'Arabie Saoudite a un rôle régional important sur le plan politique. Il y a l'Arabie Saoudite, il y a l'Iran. Il y a différents facteurs. Mais sans le pétrole et sans ses réserves considérables de pétrole, sans sa capacité de production considérable de pétrole, l'Arabie Saoudite ne serait pas, et depuis très longtemps, courtisée par les grands de ce monde, comme elle l'est, comme ce pays l'est depuis longtemps, par tous les grands de ce monde, Asie, Europe, Amérique du Nord. Et puis aussi, ce pays serait beaucoup plus critiqué pour certains aspects, notamment la question des droits de l'homme.
Et de la femme. Merci à vous, Francis Perrin, pétrole et gaz arabe. La réalisation, je l'ai dit, Jacques Sigal, à la technique Dimitri Gronoff, la préparation Franck Olivard. C'est pas du tout l'heure de la sieste, Mathieu Vidard.
Ah non, surtout pas. Hein.
Ben quand même, votre thème.
Voilà, on va parler du lit. Que fait-on dans un lit, Jean Lebrun? C'est intéressant, tout comme
le
dans
lit
une chambre, d'ailleurs.
Et la chambre. Alors nous avons parlé de la guerre du pétrole et vous allez parler de la tendre guerre. Il est 14h, vous écoutez France Inter.